Un extrait d'Odyssée, opus 37, tiré de l'album Lisotte joue Lisotte de la harpiste, compositrice Caroline Lisotte, qui est avec nous. Bonjour, Caroline.
Bonjour, madame.
Merci d'être avec nous. Vous pouvez m'appeler Hélène.
Oui, bonjour Hélène, ça fait plaisir.
Alors Caroline, vous avez une longue feuille de route. Parlez-nous un petit peu de vous, de votre histoire de musicienne.
Mon Dieu, mon histoire de musicienne, ça date de l'enfance, évidemment. Là. Je suis la fille d'un ténor, André Lisotte, et j'ai grandi dans la musique. Et puis, j'ai commencé le piano d'abord. J'ai commencé à apprendre le piano au conservatoire. Et puis, ensuite, j'ai continué avec la clarinette au secondaire. Et puis, à un moment donné, dans la famille, il y avait Gabrielle Grandmont, qui était la cousine de mon père. Et puis, elle était harpiste. Elle jouait avec l'Orchestre symphonique de Québec. Puis, ça a donné comme ça que j'ai commencé à prendre des cours de harpe avec Gabi. Et puis, j'ai continué. Ça a été mon instrument de prédilection, si on peut dire.
Qu'est-ce qui vous a attiré dans cet instrument-là?
Oh mon Dieu, le son, les possibilités aussi, les possibilités sonores, le volet mathématique un peu de cet instrument-là, parce que c'est pas tout donné, hein. Le piano, on a comme les touches noires, les touches blanches, on a tout à portée de la main. La harpe, c'est différent. La harpe, on a les cordes, mais tout le volet harmonique, les dièses, les bémols, c'est pas accessible visuellement. Il faut qu'on ait accès soit par les pédales, par les leviers, tout dépendant des harpes, là. Mm-hmm. Donc, c'est un petit côté mathématique qui était intéressant.
Ah oui?
Et puis, oui, ça m'a attiré, ça, de vraiment tomber dans la mathématique de l'instrument, là. Donc, ça l'a influencé tout le reste de ma vie, finalement.
Est-ce que c'est un instrument qui est réputé pour être difficile à maîtriser, à jouer?
Ben oui, ça demande une certaine coordination, évidemment, là, parce que justement, on n'a pas tout à portée de la main, donc soit que ça se fait par comme je vous disais, les leviers pour les harpes celtiques, c'est soit que tu le fasses avec tes mains. En plus de jouer la harpe, tu dois faire tes dièses, tes bémols avec les mains, si je peux dire, tandis que la harpe à pédale, celle qui est mon instrument à moi aujourd'hui, eh bien c'est par le pied, c'est par les pieds, les pédales qu'on fait les dièses et les bémols. Donc, c'est actionné à ce niveau-là. Donc, c'est aussi intéressant là, de voir comment ça fonctionne.
Oui,
tout ça, là. Mais
oui.
Sauf que c'est demandant, oui, effectivement, c'est exigeant, mais je pense que tout instrument demande son art, en fait, là, pour peaufiner un instrument de musique, que ce soit la harpe, que ce soit le piano, que ce soit le chant, le trombone, les percussions, ça demande beaucoup, beaucoup, là.
Faut le mériter, notre instrument.
Ah oui, il faut le mériter.
Et composer pour la harpe, est-ce que ça représente un défi, j'allais dire, ça se peut pas que ça soit insurmontable, parce que vous êtes capable de le surmonter, ce défi-là, mais est-ce qu'il y a quand même des obstacles, des difficultés?
Ben c'est ça, c'est plus la compréhension de savoir comment ça marche au niveau de la facture de l'instrument, puis de comme est-ce que je vous expliquais avec les pédales et tout ça, là, tu sais. Mais ça reste que c'est un instrument qui vibre tout le temps. C'est un instrument qui est chantant. La sonorité est vraiment particulière, et je pense que tous les compositeurs aiment toucher à cette sonorité-là qui est unique, en fait. La harpe, c'est pas un instrument c'est un instrument harmonique comme le piano, mais qui a un son ultra limpide, là, tu sais, puis c'est vraiment une couleur particulière, les fameux glissando de harpe, les grands arpèges et puis tout ça, c'est vraiment propre à l'instrument. Je pense que c'est bien, c'est toujours bien de laisser vibrer l'instrument. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup, là, de vraiment profiter des avantages que l'instrument donne, en fait, la puissance des accords, la puissance des glissando, les arpèges, c'est sa nature propre, en fait.
Les glissando, j'ai compris les glissado, mais c'est les glissando.
non, c'est ça. Ça se ressemble.
Alors, c'est ça, on pense souvent, quand on pense à la harpe, que c'est un instrument qui existe pour évoquer le rêve. Mais j'imagine que vous pensez que ça peut évoquer, oui, le rêve, mais autre chose.
Ah oui, ben en tout cas, je sais que dans l'extrait que vous venez de passer de Odyssée, c'est assez volubile comme pièce. On sent vraiment que ça a un caractère enjoué, aventure et tout ça. Tu sais, je veux dire, on est loin de la rêverie là. Tu sais, c'est puis je pense que c'est certain que on me connaît beaucoup comme étant une compositrice innovative, qui utilise la harpe pour des comment je dirais de comme de promouvoir l'instrument, de le faire connaître, pas nécessairement dans son volet féerique, angélique, mais dans son volet plus technique, puis tout ce qui est les possibilités qu'on peut faire avec la harpe. Et puis, ça, on me connaît pour ça, mais évidemment, je suis harpiste, donc les harpistes-compositeurs, je suis pas la première. Il y en a beaucoup d'harpistes-compositeurs qui sont passés, et ils vont toujours en avoir. Tu sais, c'est que ça, étant donné qu'on est on est nous-mêmes à même l'instrument, puis à composer pour cet instrument-là, je veux pas, on utilise nos techniques, toutes nos études, toute notre expertise, en fait, on le met à profit à travers les compositions. Puis ça, moi, je suis connue aussi pour mes compositions qui sont plus descriptives. Si je veux décrire des étoiles, si je veux décrire un combat, si je veux décrire un volet plus enjoué ou quelque chose, ben je vais le faire au moyen de mon instrument, parce que j'ai, évidemment, étant harpiste de carrière, ben j'ai les capacités de le montrer.
Oui.
Je sais pas si je comprends. Ouais.
Oui, c'est très clair. Vous n'imposez aucune limite à vos compositions.
Absolument ouais. Pas. Absolument pas. Ah non.
Et parlez-nous justement de votre album qui s'intitule L'Isotte joue l'Isotte. C'est un premier album?
Oui, c'est un premier album. En fait, c'est un grand, grand projet que j'ai, parce qu'évidemment, je n'ai pas seulement des pièces pour l'arbre, j'ai des pièces pour plusieurs ensembles, des pièces pour piano. J'ai commencé, comme je vous disais tout à l'heure, au piano, donc j'ai énormément d'opus pour le piano. Évidemment, ça, c'est un premier album parce que je me suis donné comme défi, si on veut, de faire l'intégrale de mes œuvres au complet au moyen de plusieurs albums. Donc ça serait comme mon premier tome qui couvre mes pièces les plus connues, là, les plus grands succès pour la harpe, parce que vu que c'est mon instrument de prédilection, ben, évidemment, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps de ma vie à écrire pour la harpe.
Alors, vous avez combien de morceaux à...
Oh mon Dieu, j'en ai peut-être une douzaine. J'ai musique de chambre, mais en tout et partout, j'ai environ une cinquantaine d'opus.
Là. OK, donc ça va donner plusieurs albums.
Oui, 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 j'en ai pour un bon bout de temps.
Oui.
Oui, oui, ça va meubler le reste de ma vie, je pense.
Et ce premier album-là était destiné à quel genre de public?
Eh bien, à tous les publics, en fait. Parce que, je veux dire, c'est une musique qui est indescriptive, donc ça va toucher, peu importe si c'est pour les harpistes ou pour les mélomanes, ça va toucher tout le monde. Mais je veux dire, c'est évidemment, c'est un des moyens que j'ai choisi par rapport à cet album-là, c'est que c'est certain que, bon, premièrement, sur l'album, il y a deux enregistrements mondiaux, là. Il y a la pièce Odyssée que vous venez de diffuser, ben ça, c'est son premier enregistrement mondial. C'est ma toute première pièce pour harpe.
Ah oui?
Oui. Et puis sur l'album, il y a aussi ma toute dernière, celle qui a été composée en 2019, Stellar Sonata. Donc il y a deux premiers enregistrements mondiaux là, sur cet album-là. Mais aussi, c'est comme je vous disais, c'est les grands succès. Donc ça a été déjà joué par beaucoup d'harpistes à travers le monde. Beaucoup d'enregistrements ont été faits aussi de mes œuvres. Donc en même temps, moi, le fait de les jouer, c'est pour ça que ça s'appelle L'Isotte. C'est comme ça laisse aussi une empreinte du compositeur qui joue sa musique pour les générations futures de harpistes, qui ça va devenir comme ça devient automatiquement un album de référence pour les harpistes d'aujourd'hui puis de demain aussi, là, pour vraiment laisser la trace du compositeur. Mais en même temps, comme je vous dis, ça couvre 30 ans de composition, parce que c'est la pièce que vous venez d'entendre, c'est une pièce que j'ai composée quand j'avais 19 ans. avant. Alors que, tu sais, il y a eu beaucoup d'œuvres pour harpe après ça, là, qui ont été composées. Donc, c'est pour ça que ça touche tout le monde, parce que les mélomanes, peu importe qu'on soit harpiste ou mélomane, on aime la musique à l'état pur, donc c'est pour tout le monde. Mais c'est sûr que c'est un album très, très intéressant, très primé pour les artistes du monde, là.
Et Caroline Lizotte, qu'est-ce que vous aimez procurer comme émotion, comme sentiment, comme sensation chez ceux et celles qui vous écoutent?
Ben, j'aime beaucoup, comme je vous disais, la description. Si je donne comme exemple le Stellar Sonata qui est sur mon album, tu sais, je décris vraiment quelque chose de particulier. Bon, c'est l'histoire est longue, là, évidemment, c'est l'histoire d'Ariane et de la mythologie grecque qui a été abandonnée sur l'île de Naxos par Thésée. Alors, toute son histoire d'Ariane, on la retrouve dans Stellar Sonata, et puis elle est très bien décrite sur trois mouvements.
Oui.
Et puis j'aime décrire le moment, comme je donne un exemple dans le deuxième mouvement de Stellar Sonata, le Ricercar, où on entend vraiment, on peut visualiser carrément Ariane abandonnée sur l'île de Naxos qui appelle Thésée en vain, et on l'entend, on entend son chant, on entend Bacchus qui l'écoute, on entend Bacchus qui la console. C'est vraiment quelque chose de la description est importante. S'il y a une pièce qui parle des étoiles, on va les entendre, les étoiles, on va les voir, on va imaginer si on sent...
Mais on va se laisser, peur, justement, en entendant, en écoutant les étoiles, Stellar Sonata, une pièce. Et je veux dire que le public est invité à participer à des événements de lancement inusité, oui, qui vont être présentés les 25 et 26 février à 19h30 à Montréal. Oui. Les participants vont pouvoir vivre une expérience immersive, écouter l'album bien installé dans l'un des hamacs installés au loft suspendu de sérénité sonore situé au 2025 A, rue Masson, loft 301. Quelle belle idée!
Oui, ça va être très plaisant, ça.
Et le prix d'entrée est de 40 $, comprend un exemplaire de l'album, l'écoute en apesanteur. Est-ce qu'on l'entend? Oui, et une prestation donc de Caroline Lizotte. 27 places sont disponibles, alors c'est un privilège. Et l'album sera offert en format physique et numérique à compter du 23 février sur le site rougebleu.com. Bien, Caroline Lizotte, ça a été un plaisir de faire votre connaissance.
Merci beaucoup, Hélène. Ça a été un plaisir pour moi aussi.
Bon succès avec ce premier album. Puis,
merci beaucoup.
Au plaisir de vous retrouver un de ces jours, parce que vous avez le projet d'en faire plusieurs autres albums. Bon succès.
Exactement. Merci beaucoup.
Au plaisir.